le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, un gros coup de massue sur le porte-monnaie des Suisses. C'est ce qu'on peut craindre avant l'annonce de la hausse des primes d'assurance maladie. Ce sera cet après-midi vers 14h. On évoque une augmentation de 6 à 10%. Autour des candidates à la mairie de Murieu de passer sur notre antenne, deux femmes veulent diriger la commune franc-montagnarde. Toutes deux ont beaucoup de points communs, mais aussi des envies bien différentes pour l'avenir de la localité. Le HC Ajoie se frotte ce soir à l'Ours Bernois. Le CP Berne est en pleine reconstruction et se méfie de toutes les équipes de hockey de National League. Vous l'entendrez avec le directeur général. Quelques éclaircies sont attendues cet après-midi sous un mercure frisquet, maximum 12 degrés en pleine, 7 sur les hauteurs. Demain, on nous annonce un arrosage copieux à vos parapluies. La Suisse est de nouveau suspendue aux annonces que fera cet après-midi la Confédération. Ce n'est plus en lien avec les mesures Covid, il s'agit des primes de l'assurance maladie en 2023. Depuis des semaines, assureurs et experts prédisent une forte hausse, peut-être même au-delà de 10% dans certains cantons. À quoi faut-il s'attendre et qu'est-ce qui explique une hausse qui va forcément faire mal? Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Les pré-annonces étaient-elles volontairement exagérées pour rendre la hausse effective des primes qu'Alain Berset annoncera en ce début d'après-midi acceptable? C'est un scénario parfois évoqué à Berne. Deux chiffres sont décisifs pour comprendre la hausse des primes. Ceux de la hausse des coûts de la santé, à charge de l'assurance obligatoire, plus 6,4% en 2021, plus 4% prévu en 2022. Ce qui fait dire à la directrice de Santé Suisse, Verena Nold, qu'il faut une hausse d'au moins 6%.
Il faudrait augmenter vraiment substantiellement les primes 2023. Au minimum, en général, 6%, mais on pense que c'est possible que les primes pourraient augmenter, selon des cantons, 10% ou même plus. Les coûts ont augmenté plus que les primes cette année, parce que les primes sont restées stables, heureusement, mais malheureusement, les coûts, pas.
Verena Nold a raison de dire qu'il y aura une augmentation moyenne pour la Suisse, certains experts parlent de 5,4%, mais avec de gros écarts d'un canton à l'autre et d'une assurance à l'autre, avec le risque de franchir le cap des plus 10% pour certains assurés.
Les primes seront annoncées cet après-midi, prévues à 14h par le ministre de la Santé, Alain Berset. Retrouvez un dossier dans notre journal de 18h. On continue avec l'actualité fédérale. La retraite généralisée à 67 ans est actuellement illusoire, selon notre correspondant à Berne. Pour Serge Jubin, le faible oui au relèvement de l'âge de la retraite des femmes sorti des urnes suisses dimanche dernier ne permet pas de pousser le bouchon plus loin actuellement. La menace a pourtant été brandie par les opposants à la réforme. Serge Jubin.
Il y a évidemment des initiants, ce sont les jeunes libéraux radicaux. Le PLR soutient cette initiative qui veut que l'âge de la retraite ne soit plus politisé comme il l'est maintenant, mais qu'il soit mécanique en fonction de l'espérance de vie. Ce qui fait que d'office, on passerait à 66 ans très vite, puis 67 ans certainement avant 2033. C'est une initiative dont personne ne veut trop maintenant, mais qui sait dans quelques années. Et Alain Berset l'a dit, avec le très très faible oui à l'augmentation d'une année de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, il est illusoire d'imaginer aujourd'hui qu'il y aurait une majorité en Suisse pour passer au-delà.
Serge Jubin était l'invité de Classe Politique ce matin. Retrouvez l'interview complète sur rfj.ch. Après le vol de mouvement de montre par un employé d'une entreprise des Breuleux, c'est au tour d'une firme du Locle de se faire avoir. Souvenez-vous, un quadragénaire avait détourné il y a un peu plus de 10 ans plus de 400 000 francs de matériel dans l'entreprise horlogère dans laquelle il travaillait. Il ne s'agirait pas d'un cas isolé, à en croire l'Est républicain hier sur son site internet. En effet, près de 25 kilos d'or volés en Suisse ont été retrouvés à Montbéliard. Un homme se serait rempli les poches avant de rentrer chez lui durant une année et aucun inventaire de l'entreprise locloise n'a permis de révéler l'affaire. Loïc Georgi.
C'est là qu'une commissaire de Montbéliard entre en jeu, lancée dans l'examen d'un livret qui enregistre les entrées et les sorties de marchandises. Elle décèle une anomalie. Une dame de 49 ans se rend fréquemment dans une échoppe de la ville française pour y vendre quoi ? De l'or. Au total, 25 kilos ont été achetés par le commerçant, ce qui correspond, selon ses prix, à un peu moins de 700 000 francs. Un joli pactole, mais bien loin des sommes habituellement perçues sur le marché actuel. Le commerçant était-il donc dans l'histoire ? Une question qui reste encore à vérifier. Après une enquête plus approfondie, les forces de l'ordre se rendent compte que la dame est la compagne d'un employé d'une usine du Locle. Un couple qui d'ailleurs a un train de vie bien supérieur à ses revenus. La commissaire a ainsi placé le couple en garde à vue afin de procéder à la mise sous scellé de la maison. Après une fouille, bingo, 5 kilos d'or sont encore là, même si leur origine reste encore à déterminer. Dernier mot à la justice à présent.
Les trois protagonistes ont été placés sous contrôle judiciaire. D'autres investigations doivent désormais être menées en Suisse, histoire aussi de comprendre comment l'or pouvait s'évaporer aussi facilement. Le Parlement jurassien se réunit demain pour sa session du mois de septembre avec un débat intéressant qui se profile sur la régulation de la médecine alternative. À la suite de dérives constatées durant la période Covid, le député socialiste Patrick Serf demande dans une motion des outils pour encadrer les pratiques, motion que le gouvernement propose d'accepter. L'exécutif estime qu'il est en effet nécessaire de modifier la pratique dans le canton, Jérémy Pignard.
Oui, c'est une nouvelle orientation adoptée par le gouvernement jurassien sur un sujet évoqué à plusieurs reprises. Il semble désormais prêt à imposer un cadre à ces multiples pratiques des médecines alternatives. Le Jura se retrouve d'ailleurs assez isolé dans ce domaine, beaucoup d'autres cantons ayant déjà légiféré sur ces médecines complémentaires, ce que le gouvernement reconnaît en avouant vouloir s'aligner sur les autres cantons, une bonne surprise pour l'auteur de la motion Patrick Serf. Concrètement, le gouvernement jurassien propose d'instaurer une autorisation de pratique pour les détenteurs du diplôme fédéral de praticien en naturopathie ou thérapeute complémentaire. Pour les autres qui ne seraient pas soumis à cette autorisation, l'État entend inscrire dans la loi des conditions d'exercice, en d'autres termes, poser des garde-fous pour éviter les escroqueries dangereuses pour le portefeuille et d'autres dérives dangereuses pour la santé des patients. Le motionnaire se réjouit du débat et de l'orientation du gouvernement qui prend selon lui le bon chemin.
Et les questions orales sont à écouter demain matin sur RFJ, puis retrouver l'actualité du Parlement jurassien sur notre antenne et site internet. Premier de nos grands rendez-vous pour les élections communales, le débat de RFJ à Haute-Saône. 4 candidats sont en lice pour le poste de maire de la 2e commune jurassienne. Ils seront tous à notre micro ce soir dès 18h30. Le socialiste Étienne Dobler, le PDC Éric Dobler, la candidate de Haute-Saône Avenir Valérie Soltermann et le Vert libéral Raoul Yegui croiseront le fer en public à l'aula de l'école primaire de Basse-Cour. À Murieux aussi, il y aura une élection pour la fonction de maire. 2 femmes veulent le fauteuil le 23 octobre prochain. Sophie Guenot et Nathalie Donzé ont plusieurs points communs. Elles vivent toutes les deux aux Émibois, ont toutes les deux 6 enfants et surtout, elles souhaitent toutes les deux s'engager pour les 5 prochaines années à la tête de l'exécutif de Murieux. Sophie Guenot est la maire sortante, sans étiquette. Elle avait été élue en 2017. Cette agricultrice de 51 ans, infirmière assistante de formation, nous explique pourquoi elle souhaite rempiler pour un mandat.
Pour la continuité des projets que nous n'avons pas terminés au niveau de notre table du conseil et surtout développer de grands projets tant sur le plan conduite d'eau, fibre optique, conduite électrique et surtout pour développer le projet du parc naturel du Doubs. Nous sommes membres depuis cette année et puis continuer tous les investissements sur les bâtiments tant sur le plan énergétique que sur le plan écologique.
Par rapport à vos débuts, vous avez changé ?
Ah oui, 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 tout à fait. J'étais sur un petit nuage et puis après, les réalités sont là, les réalités du consensus, les réalités des procédures, les réalités des contacts avec les citoyens. Mais je suis toujours aussi dynamique et puis je suis toujours une personne où, qu'on peut m'appeler à l'écoute de chacun et chacune.
Parmi les communes qui doivent départager des candidats, Murieux, c'est la seule à avoir 2 femmes candidates. Ça représente quoi, ça, pour vous ?
Et c'est quand même un élément très positif, parce que je suis arrivée, j'étais la première femme à Murieux. Là, les personnes auront le choix de 2 femmes. Je pense que par rapport à ma concurrente, c'est un choix tactique. C'est plus facile de faire voter 2 femmes. Mais je suis quand même très positive d'être en face de Madame Donzé. Et puis, ils auront un choix.
Face à Sophie Guenot, il y a donc Nathalie Donzé. Cette entrepreneure de 56 ans n'a pas d'expérience en politique, mais elle a constitué une liste, la Dynamique, composée de 8 personnes motivées à siéger à l'exécutif communal.
J'ai souhaité m'engager tout simplement pour mettre à profit mon expérience et j'ai souhaité avoir en fait autour de moi une équipe, la Dynamique, tout simplement parce que je suis nouvelle en fait en politique.
Les axes de travail principaux de la Dynamique, c'est quoi ?
Alors, c'est être rapide dans la gestion des affaires courantes, c'est de développer durablement notre commune en tenant compte des enjeux actuels comme l'environnement, l'énergie. C'est se préoccuper de nos jeunes et de nos aînés, qui représentent 50% de notre population. Et puis, surtout, c'est de faciliter les échanges entre nous pour mieux se comprendre et renforcer notre identité.
Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur ?
Il y a beaucoup de projets, soit dans des dossiers qui sont déjà menés par l'équipe actuelle, ou alors peut-être des thèmes nouveaux. Par exemple, très récemment, avec les habitants du Cernevesi, on sait que la connexion Internet est un sujet prioritaire.
La particularité de cette élection aussi à Muriau, c'est que finalement, à la mairie, deux femmes se présentent. Ça représente quoi pour vous ?
Ce qui est le plus important, c'est que nous soyons candidates et que nous ayons des candidats pour le conseil communal. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, certaines communes ne trouvent personne. Et l'engagement politique est difficile, tout simplement parce qu'on prend sur notre temps, on travaille pour la plupart tous, et donc ça veut dire travailler pour la collectivité.
Un dossier réalisé par Caroline Toussaint. Les habitants de Muriau sont appelés aux urnes le 23 octobre prochain pour désigner leur nouvelle maire. Demain, dernier dossier en vue des élections communales avec les deux candidats à Cornoles. Une exposition pour revenir sur un siècle d'évolution industrielle en prévôté. Le musée du Tour automatique et d'histoire de Moutier présente l'innovation et l'histoire industrielle dès demain après-midi jusqu'à samedi au Forum de l'Arc. Cette exposition part de l'héritage de Nicolas Juncker, un mécanicien passionné, pour arriver à la fabrique de machines Tornos. Le conservateur du musée, Stéphane Froidevaux.
Souvent, effectivement, on se pose la question à Moutier. Il y a quand même une industrie qui est omniprésente. Hein, on le voit dans le paysage urbain prévotois. Et parfois, on se pose la question, effectivement, d'où c'est que ça tombe et comment est-ce que ça a véritablement pris vie. Et c'est ce qu'on va raconter ici même. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si l'industrie s'est implantée à Moutier et quel cheminement, justement, cette industrie a connu pour en arriver à la situation actuelle en 2022. Mais bon, là, on va quand même jusqu'en 1980, ce qui est déjà pas mal.
Cette exposition de Juncker à Tornos, 1880-1980, un siècle d'innovation et d'histoire industrielle à Moutier, est à découvrir gratuitement tous les après-midi jusqu'à samedi.
RFJ, les 12h27.
Sport.
Le HC Ajoie poursuit sa tournée des champions de National League après une défaite avec les honneurs à Zoug samedi. Les hockeyeurs jurassiens reçoivent le CP Berne ce soir à 19h45 à Porrentruy. Le HCA tentera de renouer avec la victoire devant son public après deux défaites de suite. À l'inverse, l'Ours bernois a commencé la saison par trois défaites avant de remporter ses deux derniers matchs le week-end passé. Mais l'ancien attaquant bernois Reto Raiffeiner, désormais directeur général du CP Berne, se méfie beaucoup de ce HCA version 2022-2023.
On a vu maintenant, pendant les premiers 2-3 matchs de la Ligue, qu'on n'a plus les soirées faciles, que tu peux aller jouer 8-1%, on va perdre ce match. Tout le monde va perdre le match si l'équipe n'est pas prête 100%. Alors, on doit être préparé 100%. On a vu avec les résultats positifs qu'ils ont fait, qu'ils sont maintenant une équipe compétitive. Alors, on doit vraiment être prêt pour Ajoie.
Le match entre le HC Ajoie et le CP Berne sera évidemment à vivre en direct sur RFJ dès 19h30. Le maintien dans l'élite de la Ligue des Nations est à portée de crampons pour l'équipe de Suisse de football. La Nati joue son dernier match de groupe ce soir à Saint-Gall. Elle affronte la République tchèque à 20h45. Les Helvètes doivent éviter la défaite pour ne pas être relégués en deuxième division. Et ça passe par un élément clé aux yeux du sélectionneur Mourad Yakin.
C'est important que l'équipe reste compacte. Petit à petit, on s'est amélioré dans ce domaine et nous avons aussi appris de nos erreurs, ce qui nous a permis de signer cette victoire historique contre l'Espagne. Mais la statistique m'importe peu. Je veux vivre le moment présent. Le prochain match, c'est contre la République tchèque et le défi sera intéressant pour cette dernière partie à domicile. Nous allons bien sûr tout faire pour offrir à notre public une belle performance. Pour la suite, on verra. Il nous reste encore du temps. Mais l'important, ce sera de maintenir tous les joueurs en forme, car on l'a vu, si tout le monde est à 100%, que ce soit physiquement ou mentalement, eh bien on est capable de réaliser de grandes choses.
Des propos traduits par notre envoyé spécial auprès de la Nati, Joris Repon. Réaction demain dans la matinale et moi je vous souhaite une belle journée.